Europe 1. Bienvenue et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Ce matin, justement, dans le journal Les Échos, c'est le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui tire la sonnette d'alarme au sujet de la dette. Nous empruntons, dit-il, le même chemin que celui de la Grèce. Et il ajoute, Adrien Quatennens, que cette situation dramatique des finances publiques constitue la première menace sur l'avenir de notre pays. Il a raison.
Non, je crois que cela est fait pour faire peur. D'ailleurs, on entend, vous auriez pu citer également Bruno Le Maire, qui nous fait son numéro de perle à rigueur. Je crois que tout ça n'est pas sérieux. D'abord, première chose, avant de parler de la dette en tant que telle, qui l'a creusé le plus? C'est ça qui est important. Bruno Le Maire, qui nous parle sans cesse de la dette et qui a l'air d'en avoir peur, et le ministre de l'économie et des finances, qui, sur ces 15 dernières années, l'a creusé le plus, la dette, de plus de 810 milliards. Alors, il pourrait nous dire, oui, mais il y a eu la période du Covid. C'est à peu près 200 milliards. Si on les retire de ce qu'il a creusé, c'est de toute façon quand même lui qui détient le record. Donc voir ces personnages qui ont en quelque sorte favorisé des politiques de réduction des dépenses publiques d'un côté, venir nous dire qu'aujourd'hui il y a un problème de dette alors qu'en réalité ils ont beaucoup creusé ce déficit et cette dette, voilà, c'est assez...
Pompier pyromane, diriez-vous, de Bruno Le Maire?
Oui, mais ce qui est surtout insupportable, c'est que, voyez-vous, quand Bruno Le Maire, par exemple, ou d'autres responsables de droite nous parlent de la dette et du déficit, ils disent, voilà, la France est accro à la dépense publique, et en quelque sorte, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait donc la réduire. Et bien évidemment, quand ils parlent de réduire la dépense, ils parlent de réduire la protection sociale. Alors, on ne sait pas dans quoi
ils vont encore couper. Éric Ciotti dit plafonnement de la somme des allocations perçues. Et plus largement, cette musique selon laquelle, Adrien Quatennens, on ne peut pas vivre de la solidarité nationale de façon permanente. Stop à la gratuité aussi.
Je suis bien d'accord avec certains points. Alors d'abord, la gratuité, pardon, mais il faudrait peut-être rappeler à Bruno Le Maire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce pays. Hein, les prestations sociales, elles sont le fruit de cotisations, c'est-à-dire que vous payez pour une sorte d'assurance et la redistribution se fait par l'impôt. En revanche, il y a une dépense publique qui coûte un pognon de dingue, qui n'est jamais évoquée.
Laquelle ?
Eh bien, plutôt que de dire « la France est accro à la dépense publique », ce que Bruno Le Maire devrait dire, c'est « les riches sont accros aux cadeaux fiscaux qui ont été faits de manière massive depuis le début du quinquennat, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Il y a 100 milliards de fraudes et d'évasion fiscale. On ne voit pas que Bruno Le Maire ait l'intention de mettre le paquet pour l'en empêcher. Et puis aussi, en France, on a un système qui est tout à fait particulier, c'est que les grands groupes, les grandes entreprises, vous avez vu dernièrement les chiffres records, une nouvelle fois du CAC 40, 153 milliards de bénéfices, 67 milliards de dividendes. Ces entreprises sont biberonnées, accros, c'est le cas de le dire, aux aides publiques. Donc en réalité, plutôt que de parler sans cesse de la protection sociale...
Ce sont vos pistes d'économie, parce qu'hier, le ministre de l'économie vous a interpellé à l'Assemblée nationale, il vous a dit, allez-y, banco, donnez-moi une première piste d'économie.
Eh bien, je lui en donne plusieurs. D'abord, M. Bruno Le Maire, rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ah, vous avez plus de 70%.
Ben oui, mais sauf que, Sonia Mabrouk, regardons l'efficacité de la mesure. Parce que, a priori, ça n'a pas été fait pour faire plaisir aux riches. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été dit. Ça a été fait pour favoriser l'investissement et le retour à l'emploi. Est-ce que ça a été fait? Non. Vous avez même des établissements et des organismes gouvernementaux, pas insoumis, qui ont étudié l'efficacité de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, qui a consisté à redistribuer le plus à ceux qui avaient déjà beaucoup, pour dire « ça va ruisseler, vous vous en souvenez ». Eh bien, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ça n'a eu aucune efficacité du point de vue économique. La seule chose que ça a provoqué, c'est qu'il y a une part toujours plus importante de richesse qui se concentre entre quelques mains. Sonia Mabrouk, aujourd'hui, en France, vous avez 5 milliardaires qui, compte tenu des cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron et M. Bruno Le Maire, perd la rigueur qui nous dit qu'il y a trop de dépenses publiques, 5 milliardaires aujourd'hui se partagent autant, accrochez votre ceinture, que 27 millions de Français.
Je m'accroche et je vous rappelle aussi, comme ça vous accrochez à la vôtre, M. Quatennens, que pour certains d'entre eux, ils ont, suscité et généré des milliers d'emplois. Ça, vous le passez sous silence?
Non, mais c'est une évidence, mais vous savez... Quand Bruno Le Maire nous parle de la gratuité et dit qu'il faut arrêter la gratuité pour tout, le capitalisme tout entier repose sur l'idée de gratuité. Vous savez laquelle ? La gratuité du travail. On ne vous paye pas, comme salarié, à hauteur de ce que vous produisez. C'est d'ailleurs la différence entre ce que vous produisez et ce qu'on vous paye, qui s'appelle le profit. Donc tout le système dont Bruno Le Maire est le premier ambassadeur repose précisément sur l'idée de gratuité. Voilà, je pense que ces gens-là sont de piètres économistes et que eux qui ont creusé le déficit et la dette pour faire des cadeaux toujours eux-mêmes, n'ont pas à donner des leçons aux Français, dont vous savez très bien qu'aujourd'hui, ils souffrent beaucoup. La principale préoccupation des Français, on le voit, c'est la question du coût de la vie, c'est la question du prix de l'énergie, c'est la question des loyers. Il y a une situation de quart-monde qui s'étend en France, pendant que de plus en plus, vous avez une concentration de richesses entre quelques mains du fait de leurs politiques qui sont inefficaces.
Vous avez cité le pouvoir d'achat, la pauvreté, la précarité. On peut ajouter aussi l'insécurité, les trafics. À ce sujet, à Marseille, lors d'une visite surprise hier, le président de la République a promis, Adrien Quatennens, une lutte implacable face au narcotrafic, refusant, dit-il, tout discours défaitiste et affirmant que l'objectif était de rendre, je cite sa phrase, la vie des dealers impossible. Alors c'est un vœu pieux ou alors vous y voyez une vraie volonté politique?
Bon, hier à Marseille, j'ai l'impression qu'on a plus assisté, nous tous, à un tournage d'un grand film de cinéma qu'à une véritable opération de justice et de police. On avait l'impression de voir un mauvais numéro d'une émission chez une chaîne concurrente, en quête d'action, voilà. Je pense, Salem Abrouk, que les Français en ont assez des opérations de communication d'Emmanuel Macron. Ils aimeraient peut-être le voir moins, mais que leur vie change plus. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, et notamment ce qu'on a vu hier à Marseille, enfin pardon, mais une grande opération Place Net XXL, et à la fin, on arrive sur quoi? Je crois que c'est 8 kilos de cannabis qui ont été saisis et 300 grammes de cocaïne.
Plus
c'est
de 80 interpellations.
C'est absolument ridicule.
Et des trafiquants qui font la publicité sur leur retour déjà sur les points de deal.
Mais alors,
est-ce qu'il faut, par exemple, je vais vous laisser terminer, par exemple, il y a un point qui a été évoqué hier par Emmanuel Macron, c'est la sanction, en tous les cas, pointer la responsabilité des parents délinquants mineurs.
Bon, d'abord, première chose, ces gens sont au pouvoir depuis quelque chose comme 7 ans maintenant. Monsieur Darmanin, c'est 5 ans de guerre à la drogue. Pour quel résultat? La consommation continue d'exploser. Nous sommes un des pays, la France, qui a le modèle le plus répressif et qui a le plus de consommateurs. Et on le voit, ça ne cesse d'augmenter. Je crois que, en réalité, la politique du chiffre qui est menée dans la police, des opérations de court terme, comme celles qu'on a vues hier, sont à rebours de ce qu'il conviendrait de faire. Comme le dit régulièrement mon collègue Bernalicis, qui à l'Assemblée s'occupe de ces questions, il faudrait au contraire mettre le paquet dans le long terme, dans la police judiciaire, dont vous savez d'ailleurs que la réforme de M. Darmanin l'a mise en grande difficulté, dans le fait d'avoir du renseignement sur place et des enquêtes de long terme. Je crois, Salem Abrouk, que les opérations de démantèlement de trafic et de police les plus efficaces sont celles que l'on voit et que l'on entend le moins.
On peut être d'accord avec
celles comme hier.
Adrien Quatennens, mais quand vous dites le système le plus répressif, ce n'est pas ce que disent les policiers quand ils voient, alors le lendemain, j'exagère, mais quelques jours après, les mêmes trafiquants, les mêmes dealers revenir sur les points de deal.
Vous avez raison. Alors, fixons-nous deux objectifs comme responsables politiques vis-à-vis de la drogue. D'abord, il y a une question sanitaire, il faut le rappeler. J'attire votre attention sur le fait que dans de nombreux pays d'Europe, la question de la drogue est sous la compétence du ministère de la Santé et pas de l'Intérieur. C'est-à-dire que les consommatrices, les consommateurs de drogue, là je ne parle pas des trafiquants, hein, je parle de ceux qui consomment, doivent à mon avis être plutôt appréhendés sur la question sanitaire, comme des personnes malades qu'il faut aider, accompagner, plutôt que comme des criminels.
On peut faire les deux.
Alors, bien évidemment, on peut faire les deux, et sur un certain nombre de trafics, on doit le faire. En revanche, je crois, et nous le disons depuis un certain temps, que sur la question du cannabis, qui surcharge la police, qui surcharge nos tribunaux...
On connaît votre position.
Bah oui, mais il faut la dire. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de pays maintenant qui viennent...
Vous êtes favorable à une dépénalisation?
Ah non, alors pas une... Alors, pour toutes les drogues, oui. On pense que les usagers doivent être, en effet, dépénalisés. Il ne faut pas pénaliser l'usage, pas criminaliser l'usage. Il faut l'entreprendre sous la question de santé. Pour le cannabis, en revanche, comme beaucoup de pays, regardez le Portugal. Est-ce que ça a donné en termes de baisse de la consommation?
Salem Abrouk, oui.
Il y a les Allemands.
Mais on parle de la
le 1er avril, les Allemands vont légaliser.
Combien de morts? Je vous ai posé une question sur la responsabilité des parents, vous n'avez pas répondu.
Alors, il faut tarir le trafic. Vous en êtes d'accord? C'est ça le but dans ces quartiers.
Sanctionner les parents de délinquants mineurs.
D'abord, vous posez la question de savoir s'il faut sanctionner les parents pour savoir si c'est efficace pour tarir le trafic. On est d'accord, le but c'est de tarir le trafic. Je crois que pour tarir le trafic, si en effet, par exemple, le cannabis est légalisé, est contrôlé, eh bien je pense que c'est une des solutions pour tarir le trafic. Et puis après, il faut se poser aussi la question. PlaceNet XXL pour la drogue, moi ce que je vois surtout dans ces quartiers, c'est que ça a été, sous l'effet des politiques menées par Emmanuel Macron, PlaceNet aux services publics qui n'existent plus, aux bureaux de poste qui ont fermé, aux écoles qui ferment, aux hôpitaux, aux commissariats parfois. Vous savez que par exemple, on a été ceux qui ont proposé qu'on remette en état les commissariats de France, qu'on remette en état délabré.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Encore faut-il qu'ils ne soient pas attaqués, parce que sur place, Emmanuel Macron a rappelé à Adrien Quatennens que l'ordre républicain doit régner après l'attaque du commissariat de la Courneuve à tir de mortier d'artifice 4 jours, on le rappelle, après la mort d'un jeune à scooter dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Est-ce que vous condamnez l'attaque de ce commissariat?
Vous savez, l'ordre républicain, Salem Abrouk, c'est pas simplement la police et la matraque. L'ordre républicain, c'est, je le disais à l'instant, le fait que les services publics existent.
Vous parlez de qui, la matraque?
Non, mais c'est souvent, vous êtes d'accord avec moi, souvent quand dans la bouche des responsables politiques on parle d'ordre républicain, à quoi on pense? Vous savez très bien qu'en général...
À maintenir l'ordre, à ne pas avoir des commissariats attaqués
moi,
par des tirs de mortier.
Pour moi, par exemple, les services publics qui ferment, la population qu'on laisse dans une situation de dénuement, c'est du désordre républicain, c'est pas de l'ordre républicain.
Nous sommes d'accord, mais ma question c'était, est-ce que vous condamnez l'attaque d'un commissariat ?
Ce que je condamne d'abord et avant tout, parce que l'attaque du commissariat a l'air de plus vous susciter votre émotion que la mort du jeune Wanis.
Voilà. Je condamne, l'émotion par la mort, mais ma question est, est-ce que vous condamnez l'attaque d'un commissariat ?
D'abord, ce que je veux dire, c'est ma solidarité avec la famille de ce jeune homme qui est décédé, un de plus, après un refus d'obtempérer. Juste vous dire que ça fait des années que nous disons à la France Insoumise qu'il y a un problème avec l'organisation de la police. Notre discours n'est pas un discours anti-police dans ce genre de situation. C'est un discours anti-meurtre.
Monsieur Thomas Porte a dénoncé le racisme systémique dans la police. Ben ce n'est pas un discours anti-police.
On ne peut pas nier, et y compris vous avez des policiers qui disent qu'il y a un problème systémique dans la police.
Ah, c'est pas ce que dit Monsieur Porte. Là, j'entends une nuance de votre part.
Non, il n'y a pas de nuance. On a une difficulté. Mais attendez, je vais être précis.
Je connais la langue.
Ce qui vous intéresse, Sénat Mabrouk, c'est pas la polémique. Ce qui intéresse, c'est quelle solution politique.
Non, mais j'aimerais bien savoir si vous reprenez les mêmes propos.
Vous voulez pas que je réponde à votre question précédente d'abord sur ce qu'on fait pour le rapport entre la police et la population.
J'ai des questions simples. Est-ce que vous condamnez l'attaque ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a du racisme ?
Nous ne pouvons jamais être d'accord pour que l'on s'attaque à des biens ou des personnes. Sénat Mabrouk, ça va de soi. En revanche, permettez-moi de dire que le fait que quelques pétards sur un commissariat, si grave que ce soit.
Pétard, monsieur Quatennens.
Mais attendez, Sénat Mabrouk, un jeune homme est mort. Indignez-vous
aussi que des policiers soient mis en danger, je ne suis pas d'accord avec le fait que quiconque,
et y compris et spécialement
enquête,
des policiers...
Sur la mort du jeune homme.
Oui, il y a une enquête. Par contre, il y a 9 mois, c'était...
Je sais que vous respectez la présomption d'innocence.
Oui, bien sûr. Mais il y a 9 mois, c'était Nahel, Sonia Mabrouk. Et puis surtout, regardez encore une fois les politiques publiques menées en termes de relations entre la police et les citoyennes, les citoyens. Sonia Mabrouk, en Allemagne... C'est pas tous les jours que je prends l'exemple allemand, comme j'ai fait plusieurs fois ce matin sur votre plateau. En Allemagne, il y a eu un mort pour refus d'obtempérer en 10 ans. En France, on a quasiment un mort par mois depuis 1 an et demi. Donc quand nous disons, y compris que du point de vue législatif, il y a des choses à améliorer, par exemple cette loi Cazeneuve qu'il faut abroger sur le refus d'obtempérer, ce que ça permet, c'est aussi pour améliorer la relation entre la police et la population. De même qu'hier, avec la visite de M. Macron à Marseille, on a revu venir sur le débat public la question de la police de proximité. Nous y sommes hyper favorables. Une police qui, justement, connaîtrait les habitants, peut tisser un lien avec.
J'entends. Mais j'entends que vous dites ce matin pas la même chose que M. Thomas Porte.
C'est-à-dire ?
Vous dites certains policiers, et d'ailleurs dans toute institution, il peut y avoir du racisme, il faut le dénoncer, mais lui dit qu'il y a un racisme systémique, c'est-à-dire que c'est généralisé.
Non, systémique, ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes.
Si, ça veut dire qu'il y a un système
donc, qui produit et reproduit.
Donc, une institutionnalisation du racisme.
Écoutez, y a beaucoup d'écrits, il y a des gens qui ont compris, fait des études, qui ont participé à la police et qui ont été dans les effectifs, et qui écrivent, et c'est assez documenté. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre tous les policiers dans le même panier, c'est de dire qu'on a, oui, un problème à mon avis, systémique dans la police, qu'il faut régler par une autre organisation.
Adrien Quatennens, toujours à Marseille hier, Emmanuel Macron évoquait beaucoup, beaucoup de sujets, y compris internationaux, notamment sur l'Ukraine. Et quand vous parlez de la paix, de négociation sur ce sujet, la majorité vous répond, comme hier d'ailleurs, à ce micro, Valérie Ayer, tête de liste Renaissance, elle vous répond « Esprit minuquois, renoncement, soumission, reddition ». Que répondez-vous à cela ?
Bon, d'abord, il faudrait que ces gens-là prennent quelques cours d'histoire sur... les différences, y compris entre les conditions dans lesquelles la guerre de 14-18 et celle de 39-45 se sont menées. Mais au-delà de ça, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche et qu'ils disent quelle est leur proposition. C'est quoi ? C'est d'aller faire la guerre, d'aller jusqu'à Moscou et d'engager la France dans une guerre nucléaire avec une autre puissance nucléaire. Tout cela n'est pas raisonnable. Tout le monde sait que la solution à ce conflit sera une solution diplomatique tôt ou tard. Et que la France doit pouvoir intervenir en ce sens. Il existe des organismes internationaux qui permettent ce genre de discussion. Eh bien, par exemple, l'OSCE. Eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est véritablement prendre l'initiative diplomatique. On ne voit pas aujourd'hui que l'escalade guerrière va pouvoir nous mener où que ce soit.
Il a été question également de Gaza. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une habitante qui a interpellé le président et qui lui a reproché un deux poids, deux mesures. Autrement dit, d'être très ferme vis-à-vis de Poutine et puis d'être, j'allais dire, plus, en tout cas, estime-t-elle, plus laxiste vis-à-vis de Netanyahou. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette comparaison ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Les mêmes qui revendiquent le droit international pour les Ukrainiens à juste raison et des sanctions pour Vladimir Poutine à juste raison sont très timorés quand il s'agit de défendre les Palestiniens et de réclamer des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, évidemment. Et depuis que la Cour de justice internationale... Alors, j'entends, il y a le langage des petits polémistes de plateau télé, mais il y a aussi le langage du droit international. Depuis que la Cour de justice internationale a statué sur le fait qu'il y avait à Gaza un risque génocidaire, cette décision n'est pas juste un effet d'annonce. Elle oblige les signataires de la Convention contre le génocide. Donc la France doit agir. Emmanuel Macron était relativement absent du débat hier lorsqu'il a été interpellé très justement par cette femme qu'on a vue très triste. Qu'attend Emmanuel Macron pour poser un acte fort, la reconnaissance de l'État de Palestine? Qu'attend Emmanuel Macron pour imposer des sanctions à Israël? Par exemple, vous savez, M. Mabrouk, que la plupart des armes qui se retournent contre les civils à Gaza sont y compris des armes françaises. Il faut un embargo sur les armes. Ce qui est en train de se produire à Gaza...
Sur les armes?
Oui, il ne faut plus livrer d'armes, il ne faut plus que la France livre d'armes à Israël parce que ces armes se retournent contre les civils. En 4 mois, 31 700 civils tués, plus de 13 000 enfants, Sénat Mabrouk, 13 000 enfants. C'est plus en 4 mois qu'en 4 ans de conflit à travers le monde entier. Voilà la réalité aujourd'hui. Et il serait bon qu'on vienne s'en rappeler... Parce que, pour le moment, ce qu'on a surtout vu parmi les politiques et les responsables publics en France, c'est un soutien inconditionnel à une puissance qui, aujourd'hui, clairement, est en train de pratiquer une forme de génocide.
Beaucoup condamnent ce qui se passe et la situation à Gaza, tout en réaffirmant aussi et en rappelant ce qui s'est passé le 7 octobre et en dénonçant clairement les attaques terroristes
de
Hamas.
Mais c'est une évidence que ce qui s'est produit le 7 octobre, et nous avons d'ailleurs été les premiers à condamner
les
actions
de Hamas.
Mais pas les
plus clairs, reconnaissons-le.
Je ne crois pas. Non mais attendez, si vous avez quelque chose à redire de précis, Jean-Luc Mélenchon a été le premier
Hamas
responsable politique.
Comme une organisation terroriste, mais vous connaissez le débat qui dure.
Alors, son mode opératoire est terroriste, c'est indéniable. Et nous l'avons toujours dit, nous l'avons dénoncé. En revanche, en effet, du point de vue du droit international, pas de la langue qui fait plaisir sur les plateaux télé, le Hamas en tant que tel n'est pas reconnu comme une organisation terroriste. Vos collègues de l'AFP, par exemple, que vous n'allez pas suspecter de je ne sais quoi, ne qualifient pas le Hamas d'organisation terroriste.
Non mais c'est un débat, on peut non pas suspecter, mais interroger quand un média ou un politique ne qualifie pas une organisation terroriste de terroriste.
Alors attendez, on va faire un peu de droit, juste un instant du coup, si vous le voulez bien, regardez. Vous ne connaissez peut-être pas ces résolutions de l'ONU. Résolution des Nations Unies numéro 2708. Elle reconnaît la légitimité de la lutte qui mène les peuples coloniaux et les peuples sous domination étrangère pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance par tous les moyens nécessaires dont ils disposent. C'est l'ONU, M. Mabrouk. Et elle dit également, réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour se libérer de la domination coloniale et étrangère.
Par une organisation terroriste.
Attendez, M. Mabrouk. Moi, je parle la langue du droit international. Et ce que je suis en train de vous lire, ça pèse peut-être moins pour vous que CNews et Radio J, mais ça s'appelle les Nations Unies, d'accord ? Et les Nations Unies reconnaissent cette légitimité. Pour autant, évidemment, M. Mabrouk, évidemment, le mode opératoire du Hamas le 7 octobre, lui, tombe sous le coup de la loi, et ce sont des actes qui ne sont pas acceptables, qui sont des crimes de guerre, qui sont des actes terroristes, et ça, nous n'avons pas de difficulté.
Merci
à le dire.
Adrien Quatennens, on est arrivé au bout.
On n'a pas du tout eu le temps de parler des élections européennes.
Mais Manon Aubry sera notre invité.
Permettez-moi juste de dire un seul mot, alors, pour conclure.
Allez-y.
Si vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 ou pour la NUPES en juin 2022, refaites-le le 9 juin prochain en votant pour la liste conduite par Manon Aubry.
Merci d'avoir été notre invité. Je vous dis à bientôt, Adrien Quatennens.
À bientôt, merci.